Ce matin, je vais vous faire un message sur le thème de l'Église et je précise que c'est une suggestion du conseil pastoral qui m'a dit « mais ce serait bien que tu nous parles une fois de l'Église selon le Nouveau Testament ». C'est donc ce à quoi je vais m'atteler et évidemment le thème est très vaste, je ne vais pas tout dire, je vais donner un certain nombre de choses peut-être un peu générales. Mais voilà, il y a de la place pour faire d'autres messages plus tard, s'il faut continuer le thème. Et puis, il a dit que j'étais philosophe. Alors, en général, quand on est philosophe, on aime bien d'abord savoir de quoi on parle. Église, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le terme grec qui a donné Église, c'est « ecclésia ». Et j'ai regardé dans les dictionnaires de grec, j'en ai un qui est comme ça épais. Qu'est-ce que c'est qu'une ecclésia? C'est une assemblée. Une assemblée de gens qui ont été convoqués. Alors, y a des ecclésias de toutes les sortes. Hein. Par exemple, dans une assemblée de soldats, ils ont eu un ordre de marche, et puis vous venez, et puis voilà, c'est une ecclésia. C'est une assemblée de gens qui ont été convoqués. Mais évidemment, ça désigne pour nous surtout l'assemblée des fidèles, l'Église. Et dans la traduction en grec de l'Ancien Testament, qu'ils ont fait ça s'appelle la traduction des Septante, le terme, l'assemblée des Israélites au désert, par exemple, c'était ecclésia aussi. Donc c'est une assemblée de gens qui ont été appelés d'une manière ou d'une autre. Et dans les premiers sens du mot, ça ne veut pas du tout dire le bâtiment. C'est vraiment les gens, peu importe le bâtiment. Et donc il y a une convocation, un appel qui rassemble des gens. Alors ça peut désigner l'église locale, ça peut aussi désigner l'église universelle, l'assemblée de tous les gens qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, par extension, ça désigne aussi le bâtiment, mais de la même manière que quand on dit, dans la capitale, voyez, ça c'est le Parlement. Parlement, c'est une bâtisse, mais c'est pas les parlementaires. Mais en fait, on a désigné la bâtisse sous ce nom de Parlement parce que c'est là que les parlementaires se réunissent. Idem pour l'Église, c'est là que ceux qui ont été appelés se réunissent. Alors bon, mais c'est quoi la convocation? Comment, quel type de convocation ou d'appel? Bon, fondamentalement, l'Église, c'est l'assemblée des rachetés par Jésus. Et dans le livre des Actes, on a le récit de la naissance de l'Église. C'est dans le tout premier chapitre des Actes, au chapitre 1, et je vais vous lire les versets 4 à 9 du livre des Actes des Apôtres. On parle de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, avec les apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci, Jésus le dit à ses disciples, aux apôtres, juste avant d'être enlevé au ciel, parce qu'après, il leur dit ça, puis c'est le moment de l'ascension. Il leur demande, on l'a vu, de rester à Jérusalem en attendant l'accomplissement de la promesse du Père dont il leur a déjà parlé, mais en fait, on voit que les apôtres, ils n'ont toujours rien pigé. Ils disent, ah oui, c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ils vont comprendre de quoi il s'agit le jour de la Pentecôte, 40 jours plus tard. Et là, c'est dans Actes chapitre 2. Et il se passe des choses tout à fait incroyables, surprenantes, fortes en ce jour-là. Et là aussi, je vais vous lire le début du chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Imaginez que ça vous arrive et tout à coup, au lieu de parler juste le français, à la rigueur le suisse allemand ou un peu d'italien, hein, commencez à parler le wolof, le chinois, hein, le portugais, le finlandais, le basque et toutes sortes d'autres langues. De toute façon, et puis les gens qui sont là, des Africains, des Chinois, etc., ils vous entendent parler dans leur langue. Ça devait être assez surprenant. Et il y a une manifestation puissante, un souffle violent qui vient du ciel, hein, on a entendu, et qui remplit la maison. Et puis, ça a dû faire du bruit parce que les gens sont accourus. Il se passe quelque chose, c'est quoi ? Ils ont fait mouvement pour voir ce qui se passait. Et là, ces étrangers entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et Pierre, ensuite, va expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'il dit, mais en fait, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est Actes 2, 32-33. Pierre annonce donc que Jésus, c'est le Christ, c'est le Messie. Au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ » ce Jésus que vous avez crucifié. Dès lors, les gens demandent ce qu'ils doivent faire. À partir de là, on doit faire quoi ? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Voilà ce qu'ils doivent faire. Et ce discours de Pierre et ce qu'il dit là, c'est l'acte fondateur de l'Église. C'est là que l'Église commence à exister, parce que d'abord c'était l'assemblée des apôtres, hein, ils étaient une petite douzaine, et puis ensuite, eh bien, en ce jour-là, il y en a 3000 qui vont s'ajouter à ce noyau. Ceux qui acceptent, c'est acte 2, 41, puis après 47, Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Et puis après, 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on voit ici que celui qui construit l'Église, c'est le Seigneur. Au travers des apôtres, au travers des paroles qui ont été dites, c'est lui qui touche les cœurs et qui fait que ces gens désirent tout à coup rejoindre cette assemblée et en faire partie. Et là, on voit que cette œuvre du Saint-Esprit est vraiment puissante. Mais à ce sujet, Jésus avait déjà dit des choses importantes à ses apôtres avant la Passion, et c'est dans Jean 14. Jean 14, versets 15 à 17, on lit ceci. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Un consolateur, des fois c'est traduit un défenseur, une aide, un soutien, un avocat. « Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous. » Je suppose ici que cet esprit, il est en Jésus et il demeure près d'eux à ce moment-là. « Et il sera en vous. » Et il dit encore ceci qui est quand même assez fou. C'est au chapitre 16, les versets 7 à 11, toujours dans Jean. « Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, ça c'est sur ce thème de cet appel, ce qui réunit les gens, cette convocation dont je parlais tout à l'heure. Et on voit que font partie de l'Église ceux qui se sont repentis, ceux qui ont été baptisés pour le pardon des péchés, ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est compris dans le paquet. Voilà la convocation et voilà ce qui fait l'assemblée. Donc une assemblée de gens convoqués par cet appel-là. Maintenant, il y a aussi dans le Nouveau Testament deux images pour aider à comprendre ce qu'est l'Église. La première image, c'est que l'Église est comparée à un édifice, mais un édifice spécial, parce que il y a une pierre d'angle très particulière qui est Jésus, et puis le reste de l'édifice est fait par des pierres vivantes, les croyants, les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, et ça fait un édifice spirituel fait de pierres vivantes, vous, moi, d'autres, beaucoup d'autres. Et ça, c'est une image de l'Église. C'est dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, je lis « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, l'Église comme un édifice fait de pierres vivantes appuyées sur la pierre d'angle qu'est Jésus. L'autre image, c'est l'image du corps, l'organisme. Un corps dont la tête est le Christ. 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On fait partie de ce corps. On est comme des membres de ce corps. Alors, encore une fois, il y a différentes échelles pour ce corps entre l'Église universelle, dont la tête est toujours le Christ, et puis une Église locale comme la nôtre, dont la tête est le Christ aussi. Il est la tête du corps de l'Église, dit Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, il faudrait toute une prédication rien que pour parler de ce qui est dit dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Parce que là, Paul développe cette image du corps qu'est l'Église en expliquant que ce corps justement est fait de différents membres qui sont tous importants. Sont tous importants parce que dans notre corps aussi, il suffit qu'on ait un problème quelque part pour qu'on soit entièrement gêné et empêché de faire quelque chose, qu'on soit peut-être, ça peut même nous tuer. Donc, des membres qui sont tous importants, et il vaut mieux que chacun soit à sa place, parce que si tout à coup j'avais le pied ici, j'aurais de la peine à me déplacer, je ne sais pas, imaginez, ça, on pourrait faire des dessins assez drôles en mélangeant les choses. Il vaut mieux que chacun soit à sa place et soit en bonne santé pour que le corps fonctionne bien. Et 1 Corinthiens 12, 18 dit, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ces membres ont des fonctions différentes. Et là aussi, le chapitre 12 de la première aux Corinthiens en donne une liste, par exemple au verset 28 à 30, une liste de ces fonctions. Il y a d'autres listes dans le Nouveau Testament, mais ici, qu'est-ce qu'on a dans cette liste ? Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs. Les apôtres, c'est des envoyés. Les prophètes, ce sont ceux qui disent des choses de la part de Dieu. Les docteurs, c'est des enseignants. Ce n'est pas des médecins ici. Il y a ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler diverses sortes de langues, etc. Et Paul insiste pour que tout se fasse avec ordre et bienséance. Ce n'est pas la foire d'empoigne entre les prophètes, puis les docteurs, et puis ceux qui veulent servir, et puis etc. Tout se fasse avec ordre et bienséance, 1 Corinthiens 14, 40. Et comment est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe avec ordre et bienséance ? Il faut que les membres obéissent à la tête. Il faut que ce soit la tête qui commande. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà ces deux images que le Nouveau Testament nous donne pour comprendre l'Église, ce corps spirituel fait de pierres vivantes, ou cet édifice spirituel fait de pierres vivantes appuyées sur la pierre angulaire qu'est le Christ, et puis l'image du corps, de l'organisme, où tout doit bien être coordonné pour que ça fonctionne. Et à partir de là, je me suis demandé, mais à quoi elle sert l'Église ? À partir de ce que je viens de dire, à quoi sert l'Église ? Et voici comment je comprends la chose. L'Église, c'est par l'Église que le Christ est présent sur terre. Il en est la tête. Il la gouverne, elle obéit. Ça arrive. Ouais. Et c'est la présence presque physique de Christ sur la terre. Comment est-ce que les gens veulent connaître le Christ, sinon par ceux qui sont des petits Christ. En allemand, un chrétien, c'est ein Christ, tout simplement. C'est assez fort quand même, c'est pas juste, c'est plus fort qu'en français. Un chrétien, c'est un Christ. Bon. Bonjour. L'Église, la présence du Christ sur la terre, elle rend le Christ visible. Et puis, pas seulement. Elle est, je pense, son moyen d'action, d'agir dans le monde. Parce qu'il faut, des forces à appliquer, et c'est l'Église qui fait avancer la cause du Christ dans le monde. Elle continue l'œuvre de salut qui a été inaugurée par le ministère de Jésus il y a 2000 ans. Et moi, je suis toujours ému quand je lis ce que dit Jésus lors de sa première prédication dans Luc. Il demande qu'on lui donne le rouleau du prophète Ésaïe. Et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est toute cette œuvre de libération par rapport à tout ce qui nous contraint et ce qui nous fait souffrir que le Christ est venu inaugurer. Et il continue au travers de l'Église. Et vous savez quoi? Moi, je trouve qu'il y a un mot qui résume un petit peu le style de Dieu dans sa manière d'agir dans le monde. Ce mot, c'est l'incarnation. Il y a une collaboration entre Dieu et l'homme. Exemple, la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, mais elle est écrite par des hommes. On connaît leurs noms pour la plupart. On sait qu'ils ont vécu à différentes époques et ils ont été inspirés par Dieu pour écrire cela qui a été reconnu comme étant parole de Dieu. Mais c'est une collaboration entre Dieu et l'homme d'une manière assez incroyable. La Bible, ce n'est pas comme le Coran dont il est dit qu'il a été dicté par Allah à Mohammed, qui a juste écrit ce qu'il entend, ce qu'il recevait à la dictée. Non, c'est une parole inspirée, respirée en profondeur par l'Esprit de Dieu. Autre exemple d'incarnation, Jésus. Vrai Dieu, vrai homme. Les deux. Et l'Église, ça continue. L'Esprit de Dieu, dans les chrétiens, au travers de l'Église, c'est cette collaboration entre l'homme, entre les hommes et Dieu, entre Dieu qui utilise les hommes pour faire avancer son œuvre, ça continue comme ça. Ça veut dire que Jésus fait confiance à ceux qu'il a rachetés, à ceux et celles qui sont devenus des fils et des filles adoptives de Dieu. On est ses frères et ses sœurs adoptifs, Jésus, pour continuer son œuvre. Et il y a une promesse dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et puis on sait qu'à partir du moment où il est allé au Père, il a pu donner l'Esprit. Donc on n'est pas moins bien équipé, en principe, que Jésus lui-même, d'après cette parole. Mais il y a des risques. Et Dieu prend des risques. Il en a pris avec Israël. Vous allez faire comme ça, oui, oui, oui. Et il y a eu des désobéissances, il a usé de grâce, il les a... Enfin, c'est... Et puis l'Église, il prend aussi des risques sérieux, au point qu'à un moment donné, Jésus dit en Luc 18, 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ben, il pose la question, c'est parce que Ben, ce n'est pas gagné d'avance. Ça n'est pas gagné d'avance. Et ça nous, et quand on se rend compte que ça n'est pas gagné d'avance, on se dit, oui, on va tâcher de faire juste. Hein. On a envie d'être là où Dieu nous veut et puis faire les choses qu'il a, nous, les bonnes œuvres qu'il a d'avance prévues pour nous afin que nous les pratiquions. Puis on voit bien que certaines églises vont mal. Du temps de Paul, les Corinthiens, c'était, ça allait mal. Ils leur remontent sérieusement les bretelles. Mais il ne dit pas que ce n'est plus une église. Il les corrige, puis il les reprend, puis il dit, voilà, faites comme ça. Et puis, les Galates aussi, eux, ils voulaient revenir à l'ancienne alliance. Ils se font aussi reprendre par Paul. Donc, on voit que même déjà du vivant de Paul, il y avait des difficultés, que les églises, ça ne va pas tout seul. Et puis, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est normal, mais dans les lettres aux sept églises qu'il y a aussi dans l'Apocalypse, sur les sept, il y en a une ou deux où on a l'impression qu'ils assurent, hein, c'est bon, et puis les autres, eh ben, ce que j'ai contre toi, c'est ceci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un combat. Hein, si on est là pour continuer l'œuvre du Christ, si c'est ça qui est notre mission, eh bien, il faut voir que s'il y a un combat, c'est parce que tout n'est pas encore réglé. Hein. Nous sommes dans un monde dont le prince, c'est pas Dieu. Si on lit le récit de la tentation de Jésus au désert, par exemple dans Luc, et ici je lis Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais il ne dit pas, mais tu es un menteur. Il ne conteste pas que Jésus, que le diable soit en quelque sorte propriétaire de la terre et qu'il ait ce droit, il a des droits. Alors, les choses changent assez radicalement avec la mort et la résurrection de Jésus. Parce que là, il y a une victoire sur les forces des ténèbres. Jésus, il est le nouvel Adam, et cette fois-ci, c'est fini avec cette puissance sans partage. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, dit Colossiens 2,15. Et puis, dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, à partir de cette victoire, c'est réglé, mais c'est réglé en droit. Dans les faits, c'est un peu comme la conquête de la terre promise. Quand les Israélites ont pu entrer dans la terre promise, ce n'était pas tout prêt pour les accueillir. Ils ont encore dû la conquérir. Ils ont encore dû la conquérir et chaque fois qu'ils cherchaient la direction de l'Éternel pour savoir comment faire, ils gagnaient sans discussion. Et quand ils étaient en train de... Quand ils ont fait des compromis, ils ont ensuite été constamment ennuyés parce que... Voilà. Eh bien, je me demande si ce n'est pas une situation analogue pour décrire le combat spirituel que l'Église doit conduire. on doit aussi combattre pour avancer. Alors, on ne va pas combattre en tuant des gens pour prendre leurs terres et leurs possessions. C'est un combat spirituel. Mais ce n'est pas un combat facile pour autant. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait du monde. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre ces dominations, autorités, princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants. Alors Jésus nous a donné l'autorité avec le Saint-Esprit, puisqu'on peut continuer son travail, sa mission. Hein? Et puis Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais soumettez-vous à Dieu, résistez et il fuira. Le Fils de Dieu, dit Jean 3, 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est un des aspects de la mission de Jésus. Pour cette délivrance, cette libération, etc., détruire les œuvres du diable. Et c'est quoi les œuvres du diable? C'est dérober, égorger, détruire. Jean 10, 10. Hein, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et donc, voilà ce que j'ai été conduit à vous dire ce matin. Ce n'est pas facile pour moi non plus à le dire de cette manière-là, mais il me semble que l'Église est là pour ce but et qu'il faut essayer d'avancer pour que tout ce qui nous a été dérobé par l'ennemi soit restitué. Malheur, j'ai trouvé ce verset dans Ésaïe 33.1 qui me paraît parler de cette restitution. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ésaïe 33.1. Ah bon, je vais arrêter là, il y aura encore beaucoup de choses à dire à propos de l'Église, de son fonctionnement, sur les responsables, les qualifications, la place du Saint-Esprit, l'enlèvement de l'Église, sur ce qui est dit aux sept Églises dont je parlais tout à l'heure, c'est copieux. Mais je crois qu'on en sait maintenant assez pour pouvoir se poser deux ou trois questions importantes. Nous avons été appelés pour former une assemblée très spéciale, l'Église, l'ensemble des rachetés. C'est aussi plus localement les hommes et les femmes qui se réunissent dans une maison ou dans une salle comme celle-ci pour louer Dieu, recevoir sa parole, se souvenir avec la Sainte Cène que nous avons été rachetés au prix du corps et du sang de Jésus. Nous avons peut-être parfois tendance à considérer l'Église comme un abri, un refuge. Il y a d'ailleurs une Église qui appelle l'abri, c'est pas pour critiquer. Mais un endroit où il fait bon être entre frères et sœurs, c'est ça, c'est bien. Mais pas que. Nous sommes aussi le corps du Christ, ses pieds et ses mains pour agir ici, aujourd'hui, pour faire sa volonté. Et il y a des combats à mener. Nous avons une armure à revêtir, l'armure du chrétien. Elle est complexe, mais si on ne sait pas exercer à la portée, et puis à bouger avec ça, si on doit la mettre comme ça, on est cuit, hein. Il faut s'entraîner. Je me rappelle au service militaire, quand on nous entraînait à mettre le masque à gaz en je ne sais plus combien de secondes. Alors, voilà, on mettait le masque à gaz, puis finalement, on est arrivé à faire ça en 10 secondes. Et puis, charrette de l'officier, il nous avait pas dit qu'en fait, ce qu'il fallait obtenir comme résultat, c'était 15. Mais il nous avait entraînés pour qu'on le mette en 10 secondes. Alors on a une armure, mais aussi, on a aussi une arme défensive et une arme offensive, une épée. La parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelles et jointures, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4:12. Voilà, mais pour faire sa volonté, ici, maintenant, il faut qu'il nous conduise. C'est Jésus qui est la tête. Nous avons besoin de sa parole pour le connaître. Nous avons besoin de demeurer en lui pour qu'il nous révèle sa volonté spécifique par son esprit. Puis il y a peut-être des moments où on se dit, ouais, bon, ce que j'ai vraiment envie de savoir. Quelle est sa volonté? Mais est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas chercher à la connaître, en toute humilité, à discerner ce qu'il attend de nous aujourd'hui, pas il y a 2 ans ou il y a 20 ans, mais aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Pourquoi est-ce que nous sommes ici à Bienne réunis, vous, moi, ici, dans cette équipe qu'on forme ici, dans cette église, maintenant? Il y a certainement un projet du Seigneur pour nous. Hein, et il faut qu'on se mette à son écoute. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7, c'est Jésus qui parle. Et il dit encore ceci en Luc 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, à ceux qui le lui demandent? Alors je crois qu'on va simplement se saisir de sa parole, de ses promesses, et lui demander de nous parler pour la suite. Soyez bénis. Merci de votre attention.